Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570. Cette nouvelle émission de Nos rêves nous parlent, ici Jean Rivet, de Radio Mieux-Être. Nous sommes toujours en compagnie de Jean Gagliardi. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors Jean, la semaine dernière, on était dans, si on peut dire, l'abécédaire là, de l'analyse des rêves. Quoi faire avec un rêve lorsqu'il se présente? Comment on le note? Surtout, on s'assure de bien le capter?
Oui, tout à fait. On a parlé de se souvenir des rêves, des petites choses à savoir pour mieux se souvenir des rêves. On se souvient tous plus ou moins de rêves. On n'a pas besoin d'appliquer de techniques particulières pour s'en souvenir, mais il y a quelques petites choses qui sont bonnes à savoir pour renforcer cette capacité à s'en souvenir. On a parlé de noter les rêves. Mm-hmm. Je rappellerai simplement que c'est très important de noter le rêve toujours au présent, de façon à le revivre quand on le relit ou quand on l'écrit.
Okay.
C'est important de noter les émotions qui sont associées à tout ce qui se passe dans le rêve.
C'est une nuance importante parce que si on le fait pas au présent, on aurait peut-être tendance quoi à le réinventer.
On le réinvente d'une certaine façon de toute façon. Hein. On sait quelque part que la mémoire reconstruit le rêve, mais si on l'écrit au passé, on prend une distance avec le vécu du rêve.
Okay.
Si, par exemple, j'ai rêvé que je suis en train de traverser une rue et puis que tout d'un coup, il y a une main qui sort de l'asphalte et qui m'attrape le mollet. Si je dis, j'étais en train de traverser une rue et c'est alors qu'une main est sortie de l'asphalte et m'a attrapé le mollet, j'ai une distance avec ce qui s'est passé. J'en parle comme si c'était un événement lointain dont je suis détaché. Par contre, si je dis bien, je suis en train de traverser la rue quand une main sort de l'asphalte et m'attrape le mollet, l'émotion est présente. En le redisant, en l'écrivant, en le partageant, parce que la même règle est valable quand on raconte son rêve à quelqu'un d'autre, les émotions qui sont associées aux différentes phases du rêve reviennent.
Donc il y a une charge émotive dans le rêve, et ça, pour retrouver cette charge émotive-là, en fait, qui est le cœur du rêve, il faut revivre le rêve quand on le note.
Absolument, et il faut le revivre. On peut même le revivre en imagination. On peut fermer les yeux et se le repasser. Et tu as employé une expression très juste, Jean. Les émotions sont le cœur du rêve. On va parler aujourd'hui un petit peu d'interprétation. Quel travail d'interprétation on peut faire quand on est tout seul et qu'on a un rêve. Mais il y a quelque chose qui est important à savoir. C'est que si on est capable de connecter l'émotion qu'il y a dans le rêve avec les émotions qu'on vit dans la vie quotidienne, dans la vie diurne, on peut dire que les trois quarts du travail du rêve sont faits. C'est-à-dire que c'est comme si on a mis en communication le vécu du rêve et notre vécu quotidien. On a établi un pont et on pourrait dire que d'une certaine façon, l'énergie du rêve commence à enrichir notre vie quotidienne. Donc c'est vraiment l'émotion qui est le fil conducteur du rêve et qui permet de le connecter à notre vie quotidienne. D'où l'importance aussi de noter le contexte du rêve. C'est-à-dire, hier soir, par exemple, quand je me suis endormi, j'étais préoccupé par tel ou tel problème, ou dans les jours qui ont précédé le rêve, il est arrivé ceci qui m'a bouleversé de telle façon, etc. Parce que la plupart du temps, le rêve va répondre aux événements ou aux préoccupations du quotidien.
Il va offrir une guidance.
Il offre une guidance et il dialogue, en fait, avec le quotidien. Et très souvent, il va mettre en lumière ce que nous n'avons pas perçu de la situation, ce dont nous n'avons pas encore pris conscience dans la préoccupation que nous avons, la part cachée. Il fait ressortir la part qui n'est pas évidente. C'est tout l'intérêt du rêve, c'est qu'il nous amène le complément, quelque part, de ce que notre conscience envisage.
Et ça, c'est fondamental parce que notre personnalité profonde, en fait, c'est surtout ça qui se révèle dans le rêve. Et c'est ça qu'on a intérêt à actualiser dans notre vie quotidienne.
Oui, et plus profondément encore, c'est notre totalité, d'une certaine façon, qui se révèle dans le rêve. En effet, c'est la personnalité profonde si on considère que pendant la journée, nous sommes obligés de nous en tenir dans une grande mesure à la surface. Pour plein de raisons, nous n'avons pas le temps de nous introspecter tout le temps face à toutes les situations qui se présentent.
On est dans l'image, on est dans les rôles sociaux.
Exactement, on est aussi dans une certaine urgence, hein. Il y a plein de choses à faire, on peut pas s'arrêter à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour prendre une méditation sur qu'est-ce qui vient de nous arriver, de le ressentir tout en profondeur ces aspects. Et le rêve va amener la part complémentaire. Par exemple, imaginons que j'ai eu un argument avec mon patron, une discussion dans laquelle je me sentais tout à fait fondé de me fâcher parce qu'il m'exigeait encore plus de travail, etc. Et nous avons eu une discussion difficile. Ouais. Et j'en suis ressorti blessé éventuellement et avec l'impression que j'étais dans mon bon droit et que s'il y avait une justice sur cette terre, n'est-ce pas, elle aurait dû se manifester immédiatement. Et
tant qu'il y a sans silence.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et je rêve pendant la nuit, je rêve d'une situation, par exemple, dans laquelle je suis en train de me disputer avec mon père et au cours de laquelle, progressivement, je me rends compte que mon père a des arguments tout à fait valables et qu'il est en train de me faire valoir que depuis longtemps, je fais un petit peu semblant de travailler, mais que je tourne les coins ronds, comme on dira. Alors, si j'examine ce rêve en relation avec ce qui s'est passé la veille, je vais me rendre compte déjà qu'éventuellement je projette une figure paternelle sur mon patron. Okay. Donc je lui prête un pouvoir qui était celui que je donnais finalement à mon père.
Tu ne le vois pas tel qu'il est, mais tu projettes une image.
Je projette une image, d'où les émotions que je ressens dans cette discussion sont d'autant plus fortes parce que quelque part, c'est un petit peu comme si j'avais l'impression que mon père était en train de me corriger, et ça me rappelle de bien mauvais souvenirs, n'est-ce pas? Mais en plus, j'étais certain d'être dans mon bon droit à me défendre contre cette odieuse pression qu'il faisait pour que je travaille plus, et le rêve me rappelle des situations datant de mon adolescence dans lesquelles mon père pouvait pointer que je tournais les coins ronds et que j'avais tendance à dilapider mon temps plutôt que de travailler effectivement.
Donc tu retrouves la vraie histoire, la vraie trame de fond qui se joue dans le quotidien.
Voilà. Et là, tout d'un coup, si je regarde ça et que je réexamine la situation de la veille, il se peut que j'éprouve un certain malaise. Parce que tout d'un coup, la conviction que j'avais d'être absolument dans mon bon droit est un petit peu ébranlée de l'intérieur en me disant « Dis donc, ça ne te rappelle pas quelque chose ?» Et si, en effet, je suis honnête avec moi-même, je vais éventuellement reconnaître que je passe un petit peu de temps sur les réseaux sociaux quand je suis au travail, que quand j'ai l'occasion, je regarde par la fenêtre.
T'écoutes peut-être Radio Musette.
J'écoute Radio Musette, ça, bien sûr, toute la journée. Et que finalement, ce n'est pas que mon point de vue soit complètement invalidé, mais le rêve va me proposer de considérer l'autre point de vue, le point de vue que je ne voulais pas voir. Donc en fait, c'est un peu la règle du jeu avec les rêves, c'est ce qu'on pourrait appeler le jeu de la voie du milieu. Dès que nous allons un petit peu trop à droite, le rêve va nous amener... par compensation, qu'est-ce qui se passe à gauche? Et finalement, va tendre à nous permettre de marcher au centre en envisageant tous les points de vue dans la situation qui nous préoccupe.
C'est le criminel qui rêve qu'il est un saint et le saint qui rêve qu'il est un méchant criminel.
Absolument. On en a déjà parlé ici. C'est ce cher saint Augustin qui a proclamé que la sexualité était quelque chose d'absolument honni et qui écrivait que, Dieu merci, Dieu ne lui tiendrait pas compte de ses rêves parce que toutes les nuits, il se retrouvait dans des aventures libertines, qui étaient les aventures libertines de sa jeunesse, qu'il avait renié complètement quand il a embrassé le christianisme. Il était passé d'un extrême à l'autre, mais cet haut extrême qu'il avait nié, à partir d'un certain point, restait vivant en lui.
Remontait dans les
rêves. Et continuait à remonter.
Intéressant. Je vais déjà, Jean, donner les deux numéros de téléphone aux auditeurs. Si vous aimeriez faire interpréter un rêve, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 450-680-1570, 450-680-1570. Et aussi, de partout au Québec, vous pouvez faire le numéro 1-866-895-3142. Donc, le rêve compensatoire, le rêve aussi qui nous donne une ligne directrice dans la vie.
Absolument. Le rêve nous donne tout le temps une guidance au sens où il nous donne l'avis de nos profondeurs sur ce qu'on est en train de vivre, sur les décisions qu'on s'apprête à prendre. Et la guidance du rêve n'est jamais une guidance qui nous retire nos responsabilités. Le rêve ne prend pas de choix à notre place et le rêve ne nous juge pas, ne nous juge jamais. Si on a le choix entre plusieurs options, le rêve va éventuellement nous proposer d'examiner qu'est-ce que l'on va vivre ou qu'est-ce qu'on peut envisager de vivre dans chacune de ces options. Admettons par exemple qu'une de ces options soit malhonnête, le rêve ne jugera pas. Mm-hmm. Par contre, il nous avertira peut-être que, à force de s'engager dans une direction malhonnête, tôt ou tard, nous en vivrons des conséquences et qu'il faudra les assumer.
Il y a un aspect, moi, qui m'intéresse aussi dans le rêve, c'est la prémonition, les rêves prémonitoires. L'idée que le rêve, souvent, est un peu comme un radar qui nous indique ce qui s'en vient.
Absolument. Alors ça, ça fait partie des choses qui rendent difficile l'interprétation des rêves, hein, qui fait que l'interprétation des rêves, c'est un art beaucoup plus qu'une science. C'est qu'il y a très souvent des éléments d'avenir qui apparaissent dans les rêves. Et évidemment, c'est difficile de les identifier tant que cet avenir n'est pas devenu présent. Mmh. C'est l'intérêt de noter ces rêves et d'y revenir, c'est que éventuellement, on se reporte à des rêves qu'on a fait 6 mois, 1 an auparavant, et on dit « Ah, c'était dans le rêve ».
Il y avait un avertissement.
Il y avait un avertissement où il y avait une préparation. Je préfère parler de rêves préparatoires que de rêves prémonitoires. Ça a une notion de prémonition, mais il faut se demander pourquoi nous rêvons à propos de ce futur. Et il y aurait au fond deux raisons que permettent de comprendre la psychologie du rêve. C'est d'une part comme si le futur était en formation dans le rêve, il se prépare dans le rêve. Les anciens, je pense aux Amérindiens et différents peuples qui vivaient vraiment dans une culture du rêve. Alors, en tout cas, les cultures chamaniques disent que il y a rien qui se devienne réel qui n'ait d'abord été rêvé.
Okay.
Alors, nous ne nous souvenons pas de tous nos rêves et on peut penser qu'une grande partie de notre futur se prépare dans les rêves dont nous ne nous souvenons pas et donc il nous advient sans que nous ayons aucune idée de comment nous l'avons rêvé. Mais quand il y a des éléments de futur qui apparaissent dans les rêves, c'est que le rêve cherche à nous préparer à ce futur. Il cherche éventuellement à nous faire mesurer qu'il y a un sens dans les événements qui vont nous arriver. Il nous fait remarquer aussi que nous ne sommes pas aussi aveugles que nous le croyons par rapport au futur et que nous avons une intuition, que l'inconscient a beaucoup plus d'informations que notre conscient à propos de tout ce qui nous arrive et donc il est capable d'une certaine façon de deviner ce qui se prépare.
Et c'est ça qui se présente dans le rêve, c'est ces parcelles de connaissances qui nous sont données et qu'on peut rejeter du revers de la main ou prendre avec soi puis cheminer.
C'est-à-dire que, c'est ça, c'est les gens qui rejettent le rêve du revers de la main, c'est intéressant de constater que c'est toute une part d'eux-mêmes qu'ils rejettent, finalement. C'est quelque chose, c'est un peu comme s'ils se coupaient le bras gauche et puis ils disaient « je veux rien savoir de mon bras gauche, c'est un bras gauche inutile ». Alors que ce bras gauche cherche à participer à la vie au même titre que la main droite, que le bras droit. C'est rejeter le rêve, c'est s'amputer d'un accès à l'intuition et d'un accès à une capacité très sensible de toucher à ce qui se passe dans nos profondeurs. Le rêve n'est pas un intellectuel, le rêve ne fait pas des grands discours, il nous met au contact très directement de façon sensible à ce qui se passe dans nos vies ou à ce qui se prépare.
Ouais. En tout cas, c'est toujours fort intéressant. On va faire une petite pause et je rappelle avant qu'on fasse la pause le numéro de téléphone, si vous voulez téléphoner pour faire analyser un rêve par Jean. Le numéro de téléphone est le 450-680-1570. À tout de suite.
Animateur et réalisateur de l'émission Ésotérisme expérimental à la télévision, Richard Glenn a été et est toujours l'un des meilleurs vulgarisateurs du monde ésotérique. L'ésotérisme de Richard Glenn n'est pas seulement une démarche intellectuelle, mais un ésotérisme vécu et expérimenté. Franchise, loyauté et honnêteté, voilà le contenu de l'émission Ésotérisme expérimental. Les vendredis 18h et en rediffusion le samedi 22h.
Donc, Jean, on poursuit toujours sur l'interprétation des rêves. Bon, je me lève le matin, j'ai fait un rêve. Ce rêve-là me trouble, m'obsède. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Si je peux pas l'interpréter, si je peux pas demander à quelqu'un de m'aider de l'interpréter, comment je m'y prends?
Il n'y a malheureusement pas d'interprète de rêve au coin de toutes les rues encore. Il se trouve que des pays comme en Chine ancienne, il y avait des interprètes de rêve sur les marchés. Et donc, il suffisait d'aller voir l'interprète de rêve sur le marché.
Ouais.
En Occident, les interprètes de rêve sont rares. Alors la première chose que tu fais, Jean, c'est déjà de prendre note de ton rêve. C'est l'essentiel, d'en prendre note avec tous les détails, au présent, comme on disait. Déjà, rien que d'en prendre note, en notant tous les détails, en notant les émotions associées, le rêve va commencer à te travailler. Il y a des choses qui vont te venir à l'esprit au fur et à mesure que tu notes le rêve. Tu vas te rendre compte qu'il y a des éléments du rêve qui sont plus chargés d'émotions que d'autres. Déjà, le fait d'accorder ce temps va permettre un travail et éventuellement ça te permettra de revenir au rêve plus tard parce que peut-être que tu as des choses à faire ce matin-là et que tu peux pas continuer à travailler le rêve. Mais admettons que tu aies le tout ton temps et que tu puisses continuer. Comme tu dis, tu as un rêve qui t'a troublé, qui t'a touché. La première chose qu'on propose de faire quand on travaille un rêve, quand on reçoit un rêve comme ça, c'est d'y aller avec l'intuition. Et par exemple, une des bonnes façons de mettre en jeu l'intuition qu'on a d'un rêve, c'est de lui donner un titre.
Okay.
Un titre sans réfléchir outre mesure. Quel est le titre qui nous vient à l'esprit une fois qu'on a pris le temps de bien revisiter notre rêve en l'écrivant?
En fait, c'est une façon de l'actualiser. On lui donne un visage, on lui donne un nom.
C'est une façon de l'actualiser. C'est une façon aussi d'aller en tirer l'élément le plus important éventuellement, ou en tout cas une porte d'entrée. Parce que des fois, nous faisons des rêves qui sont des véritables aventures épiques.
Ouais.
Il se passe énormément de choses. Et puis finalement... dans tout ce rêve, c'est un élément en particulier qui attire notre attention. Advenant par exemple qu'on rêve d'Alice au Pays des Merveilles qui court derrière le lapin blanc qui n'a jamais le temps qui vit toutes les aventures qu'on connaît à Alice au Pays des Merveilles. Et peut-être que ce qu'on va donner comme titre, c'est le lapin blanc qui était toujours pressé.
Ou le lapin blanc qui n'avait pas le temps.
Voilà. Et ça nous donnera un angle d'approche du rêve pour démêler un petit peu le fouillis de toutes ces images.
Oui, oui.
Hein? Et c'est important que ce soit intuitif, que ce soit pas un titre qu'on réfléchit en se disant quel est le meilleur titre pour ce rêve, je devrais considérer tel et tel aspect. Non, non. Qu'est-ce qui nous vient? Qu'est-ce qu'on a envie de garder comme si on devait se rappeler ce rêve en une phrase? Une fois qu'on a donné un titre à notre rêve, ce qui est intéressant à faire, c'est d'abord de se situer dans le rêve, de regarder où on est, où est le rêveur, la rêveuse, quelle est sa position dans le rêve. Il y a des rêves dans lesquels nous sommes des acteurs du rêve, il y a d'autres rêves dont nous sommes simplement spectateurs, nous sommes simplement... un œil, une conscience qui constate une scène. Et c'est très important de se situer dans le rêve avec tous les détails possibles. Même si on est simplement un spectateur, on peut dire « je suis comme un œil flottant dans la pièce qui observe cette situation », ou à l'inverse, on va être impliqué dans le rêve. Et dans ce cas-là, par exemple, plutôt que de dire « nous étions une bande d'amis en promenade », c'est beaucoup plus intéressant d'écrire déjà le rêve en partant en disant « je suis avec des amis ». nous sommes partis en promenade, de prêter attention à tous les détails, comment nous sommes habillés, comment nous nous sentons dans le rêve. Il est fréquent qu'en rêve, on ait une autre identité.
Sans se censurer, parce que des fois, ça peut être troublant ce qui remonte dans le rêve.
Ah, absolument.
Et là, si on se censure, ben là, on se coupe de l'essentiel.
Bien sûr, c'est toute l'affaire. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que s'il y a quelque chose dans le rêve qui vient nous troubler, nous perturber, c'est que le rêve veut vraiment attirer notre attention sur quelque chose. Il nous demande vraiment de l'accueillir dans l'intimité de ce rapport avec nous-mêmes qu'est le rêve.
Donc, on pourrait dire qu'il n'y a rien de fou dans les rêves. Tout est bon.
Ah, absolument.
Il n'y a rien à rejeter.
Il n'y a absolument rien à rejeter. Les rêves, tout peut arriver dans un rêve. Je peux traverser les murs dans un rêve. Je peux voler. La semaine dernière, on a parlé d'un rêve, justement, comme ça, une personne qui volait. Je peux aller sur la Lune, sur Mars, je peux même faire un voyage interstellaire. Je peux revenir au commencement des temps. Je peux me retrouver dans des situations complètement scabreuses.
Et tout ça, ce sont des indicateurs de nos états d'âme, parce que c'est de ça qu'on parle, parce que ça, c'est un truc, c'est une dimension intéressante qu'on peut regarder. Est-ce que les rêves viennent du cerveau ou est-ce qu'ils viennent d'une part plus profonde que le cerveau?
Il y a des fortes présomptions qui permettent de penser que le rêve vient de l'intelligence globale du corps incluant le cerveau et incluant une dimension qu'on a énormément de mal à cerner, qu'on pourrait appeler une dimension spirituelle. Donc on a la conviction, vraiment des éléments de quasi-preuve, de ce que le rêve vient vraiment de la totalité de notre être, de ce qu'on pourrait appeler le corps-esprit.
Si on regarde ça d'un point de vue strictement matérialiste, scientifique, on va dire que c'est le cerveau qui sécrète le rêve. Alors que dans plusieurs cultures, c'est plus le voyage de l'âme, c'est plus la dimension spirituelle qui se révèle dans le rêve.
Absolument, c'est le point de disjonction entre la science moderne et les cultures traditionnelles. Pour la neurophysiologie, au pire, je dirais, le rêve est un désordre neuronal, c'est une décharge d'énergie électrique dans nos neurones qui n'a pas vraiment de sens. La neurophysiologie a quand même démontré que les rêves servent à l'apprentissage et la digestion des événements de la journée. Michel Jouvet, en particulier, un neurophysiologue, a fait une expérience avec des chatons dans lesquels il avait sectionné une petite partie de leur cerveau qui inhibe les mouvements du corps pendant la nuit.
Ouais. Hein?
Et il a pu observer ce que faisaient des chatons quand ils rêvaient. Mmh. Et il a pu observer que les chatons répétaient les événements de la journée qu'ils avaient vécu et qu'ils s'exerçaient. Si, par exemple, les chatons avaient été initiés à la chasse, eh bien, ils reproduisaient les scénarios de chasse pendant la nuit et ils en exploraient toutes les variantes possibles.
Comme on le fait, nous, pour le comportement humain.
En effet. Donc, en effet, les cultures traditionnelles avaient un tout autre point de vue qui reconnaissait l'autonomie de quelque chose qu'on appelle l'âme. Sans rentrer dans la métaphysique. Et c'est sans doute des rêves que viennent la conviction que les êtres humains ont depuis toujours qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a que les ancêtres, par exemple, continuent à nous accompagner. Parce que toute personne qui a eu des chères personnes décédées dans son existence aura eu, vraiment presque tout le monde, l'occasion de retrouver ces personnes décédées dans un rêve, de parler avec elles, de recevoir éventuellement leurs conseils. C'est certainement une des choses qui a conduit nos ancêtres à être absolument certains qu'il y avait d'autres mondes que nous pouvions visiter une fois que nous quittions notre corps.
Je te pose une question à toi, Jean. Le rêve, c'est plus le reflet d'un état d'âme ou d'un état d'esprit?
Quelle différence ferais-tu entre l'esprit et l'âme dans ce cas-là?
Ben, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que si on regarde ça d'un point de vue strictement matérialiste, scientifique, on dit que le cerveau produit des rêves un peu comme pour se décharger là, d'un surplus d'activité neurologique, on va voir ça comme ça. Alors que, dans le fond, moi, personnellement, j'y vois plus comme le reflet de, des états d'âme, parce que pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que le cerveau, comme noyau de l'identité humaine. C'est pas... ça se passe pas tout dans la boîte de contrôle au-dessus des épaules. Il y a une dimension plus complète.
Bon, ben je te rejoins complètement dans cette conviction. Il faut savoir que dans l'accompagnement des rêves que je fais, j'accompagne souvent des gens qu'on dit qu'ils sont en émergence spirituelle, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des phénomènes que la science n'arrive pas à expliquer, soit qu'ils ont des perceptions de l'énergie, des expériences chamaniques et tout ce genre de choses. Et au fil des années, j'en suis vraiment venu à la conviction que le rêve est l'expression de quelque chose en nous qui est complètement hors du temps. Mmh. Et c'est le regard de cette partie en nous qui est hors du temps, hors de l'espace, qu'on pourrait appeler l'âme.
Incarnée.
Et qui s'incarne à travers nous. Personnellement, j'aime pas dire, par exemple, mon âme, parce que ça ne veut rien dire. L'âme ne m'appartient pas. C'est moi qui appartiens à l'âme, d'une certaine façon, mm-hmm. au sens où j'en suis une expression. Ouais. Et les rêves vont, par exemple, exprimer le désir de l'âme dans cette incarnation. Mm-hmm. Ils vont nous rappeler à ce qui est essentiel pour nous. Si nous perdons notre temps pour de bonnes ou de mauvaises raisons à faire des choses qui sont contraires à notre vocation la plus profonde, les rêves vont nous le signaler et vont nous donner éventuellement des avertissements en nous signalant qu'on ne pourra pas continuer toujours comme ça, qu'éventuellement, à force de nier ce qui est essentiel à notre existence, nous allons d'abord peut-être confronter la dépression, des choses comme ça, puis éventuellement des symptômes plus graves. Donc pour moi, le rêve s'origine vraiment de quelque chose qui est indéfinissable, mais qui est hors du temps. C'est ce qui lui permet d'être prémonitoire. Mmh. C'est que, justement, c'est comme si le rêve, ou la source des rêves, embrassait littéralement et le passé le plus lointain qu'on ne connaît
pas. Quelque chose de plus essentiel.
Et le futur qu'on ne connaît pas encore. Et il nous amène toujours, en fait, ça c'est Carl Jung qui le disait, mais je n'ai pu que le revérifier dans les 20 dernières années, il nous amène toujours une dimension de sens par rapport à ce qu'on vit.
Il nous amène à mieux nous incarner, je dirais même jusqu'au bout des ongles.
Absolument, il nous invite à vraiment accepter notre vie dans tous ses aspects, être capable de lui dire oui, parce que cette vie a un sens. Mmh. Au fond, il n'y a rien d'insurmontable, semble-t-il, pour un être humain à partir du moment où il est capable de donner un sens à ce qu'il vit. Y a des gens qui ont traversé des camps de concentration. On leur a demandé qu'est-ce qui avait fait leur force, qu'est-ce qui leur avait permis de survivre à 3 ans de camp de concentration. Et c'est toujours une dimension de sens. C'est toujours une dimension de sens de l'existence.
On va parler de grandeur d'âme.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y en a une grandeur d'âme. On peut être dans le petit moi quotidien, mais aussi on peut valoriser cette part en soi qui appelle à se déployer.
Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à cette antenne, c'est qu'il n'y a pas de vie ordinaire du point de vue du rêve. C'est-à-dire que toute personne, on a parlé un peu du héros et de l'héroïne intérieure dans une autre émission, toute personne a, d'une certaine façon, un grand destin à assumer. Ce n'est pas nécessairement un grand destin aux yeux des autres, ouais. Mais c'est sa grande tâche existentielle, ce qui précisément va donner sens
sa mission
à son existence, sa mission de vie. Et le rêve nous rappelle ça. Le rêve nous ramène à cette dimension essentielle, comme une façon toujours de dire aime ta vie, aime ta vie, aime ta vie.
Je rappelle le numéro de téléphone si vous aimeriez faire interpréter un rêve par Jean. Donc, vous nous téléphonez au 450-680-1570 et au numéro sans frais 1-866-895-3142. Donc, vous pouvez téléphoner, nous parler d'un rêve qui vous revient, peut-être un rêve répétitif, un rêve qui vous a marqué dans le passé, un rêve prémonitoire. Le rêve se présente de différentes façons. C'est ce qu'on aborde dans cette émission. Et puis, Jean, toi, comment en es-tu venu à t'intéresser aux rêves?
Je suis... suis un petit peu tombé dans la marmite en étant presque enfant. Les rêves ont pris beaucoup d'importance dans ma vie dès l'âge de 15 ans. J'avais une attirance, tout simplement, et j'ai été très frappé un soir où je devais faire un choix important. Je me suis couché avec plein de questions. J'avais 16 ans.
Parce que la nuit porte conseil.
Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. C'est le conseil des rêves qu'on va chercher. Et cette nuit-là, j'ai fait 6 rêves. Et je me suis rendu compte au matin que les rêves m'avaient fourni énormément d'éléments, non seulement pour la décision que j'avais à prendre, mais finalement pour plein de choses que je n'avais pas encore envisagées et qui se sont manifestées, qui se sont révélées plus tard. Donc justement, cette dimension un petit peu préparatoire du rêve. Et c'est quand j'avais la vingtaine... que discutant avec un ami, il m'a tendu un livre de Carl Jung en me disant « Je crois qu'il y a quelque chose pour toi là-dedans ». Et en effet, j'ai eu l'impression que je venais de trouver le début des éléments de réponse. Donc,
pour situer les auditeurs, Carl Jung, c'est le psychiatre zurichois, de Zurich en fait, en Suisse, et qui était aussi, on pourrait dire ça, le principal disciple de Sigmund Freud.
Alors... il a été le dauphin de Sigmund Freud. Ouais. Il a rencontré Freud dans les années 1900. Ils ont, pour la petite histoire, quand ils se sont rencontrés, ils ont parlé pendant 13 heures d'affilée. C'est dire comment c'était intense entre eux. Mais une dizaine d'années après, donc au début des années 1910-1911, ils ont rompu. Et ils ont rompu précisément sur le fait que Freud voulait ne voir dans le fameux inconscient qu'une dimension de désir refoulé, de désir essentiellement sexuel. Et Jung ne pouvait pas accepter cette limitation. Pour Jung, il y avait, de la même manière qu'il y a l'instinct sexuel, il y a l'instinct spirituel qui cherche à se manifester dans les rêves. Et ça a été leur point de rupture. Alors... on peut pas résumer Carl Jung en disant que c'était le dauphin de Sigmund Freud parce que Carl Jung a vécu jusqu'en 1961. Et pendant les 50 années qui ont suivi, il a développé sa propre œuvre complètement indépendante de Sigmund Freud.
Et il a eu un impact absolument incroyable sur toute la psychologie moderne aujourd'hui. Encore beaucoup de thérapies ont pour base la psychologie de Jung.
La psychologie de Jung a servi vraiment de base, en effet, au développement de tout un pan de la psychologie, dont en particulier ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire la psychologie qui considère l'être humain comme ayant une dimension qui va au-delà du personnel. Parce que une des grandes découvertes de Carl Jung, c'est le fait que nous n'avons pas simplement un inconscient personnel, mais que nous avons un inconscient collectif, que nous sommes grâce à l'inconscient collectif en lien avec tout ce que nos ancêtres ont vécu, ont appris et avec tout ce qui se passe autour de nous sur cette planète et sans doute bien au-delà.
Donc un genre de Wi-Fi psychologique et psychique qui nous relie tous à notre insu.
Oui, j'ai publié sur mon blog un rêve à propos d'icebergs qui est très intéressant. Nous avons tous tendance à nous prendre pour des entités complètement autonomes et séparées. Les gens qui pratiquent la méditation, qui s'intéressent à la non-dualité, savent à quel point c'est quelque part l'illusion fondamentale. Et justement, cette image que m'avait amené une rêveuse un jour qui me dit, à l'issue d'un stage, elle dit « J'ai rêvé que je suis un iceberg, je flotte dans la mer et au merveille, il y a d'autres icebergs et ensemble, nous formons un cercle. » Et en fait, elle décrivait de façon très intéressante la relation de la psyché individuelle avec le collectif. C'est comme si la psyché individuelle, c'est l'iceberg qui est une image traditionnelle pour parler du rapport entre le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est la partie émergée de l'iceberg. L'inconscient, qui est généralement 30 fois, 40 fois plus gros, c'est la partie immergée de l'iceberg. Elle est plongée dans l'océan. Mais l'iceberg est dans l'océan, précisément, et est relié aux autres icebergs par l'océan. Les icebergs que nous sommes, D'après Carl Jung, nous baignons dans un inconscient collectif qui est comme une énergie, on pourrait dire, qui nous environne en permanence et qui nous nourrit d'informations en permanence. Et nous sommes reliés les uns aux autres par cet inconscient collectif.
Je pense que Jung parlait aussi d'une âme du monde. Il parlait d'animus mundi.
Il allait jusque-là, en effet. Il étendait ça jusqu'à la notion de l'âme du monde.
Mère nature.
Ce qui anime la nature, oui, on pourrait dire, oui, ce qui anime le cosmos, ce qui anime l'univers. Un dernier mot sur ce rêve d'iceberg, il présente un aspect très intéressant, c'est qu'il faut se rendre compte que les icebergs, c'est de la glace, mais la glace, en réalité, c'est de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence réelle, fondamentale, entre l'océan et l'iceberg. Et c'était la grande compréhension qui est ressortie de ce rêve, que je crois était un peu une petite illumination pour la rêveuse. Qui était une personne qui se vivait isolée, se vivait séparée des autres, et tout d'un coup, grâce à ce rêve, a réalisé comment elle était en permanence connectée au reste du monde et à tous les autres.
Fort intéressant. Et je me dis aussi, souvent, c'est vrai aussi c'est vrai au niveau personnel, mais c'est vrai aussi au niveau collectif. Est-ce qu'à ce moment-là, les visionnaires, les artistes, les gens qui vraiment vont porter un message de renouvellement dans la société, c'est pas des gens justement qui ont accès à ces ressources-là, cette trame de fond-là qui se dessine?
C'est exactement comme ça que Jung les comprenait. En faisant remarquer d'ailleurs que chez les peuples traditionnels et dans l'Antiquité, on avait une intelligence de ces choses-là. Quand à Rome ou à Athènes, des gens avaient des rêves qui semblaient être des grands rêves qui dépassaient leur portée personnelle, ils étaient par exemple à Rome invités à venir parler de leurs rêves devant le Sénat. Et on a la trace comme ça, par exemple, d'un épisode où plusieurs jeunes filles sont venues parler devant le Sénat romain du fait que la déesse Athéna était en colère parce que elle n'avait pas de temple digne de ce nom et qu'elle allait se fâcher. Et le Sénat a débloqué un budget pour faire construire très rapidement un temple à Athéna. Alors oui, c'est un autre élément qui rend l'analyse, la compréhension des rêves difficile. On a parlé tout à l'heure des éléments de futur. Là, il y a d'autres éléments, c'est les dimensions collectives. On ne peut pas toujours assimiler notre rêve, les symboles de notre rêve, seulement à des éléments personnels.
Ce que j'ai remarqué, ben ça c'est un peu connu aussi, c'est lorsqu'il y a des événements mondiaux, des tragédies vraiment mondiales marquantes, il y a plein de gens à l'avance qui vont rêver à la fameuse tragédie.
Absolument. Absolument. Il y a des rêves préparatoires, prémonitoires, qui donnent des indications surprenantes des fois. Il y a bien connu, par exemple, ça faisait partie d'un reportage qui est passé en boucle en 2001 après l'affaire qui est arrivée autour, où un des proches de Ben Laden avait rêvé de quelque chose qui arrivait autour du World Trade Center et lui a raconté le rêve. Et Ben Laden lui a demandé de ne plus jamais parler de son rêve et de ne plus parler de ses rêves-là.
Ouais,
et évidemment, le secret risquait d'être éventé. Et je me souviens aussi qu'à la même époque, le FBI était venu interroger une personne dans les Laurentides qui était un voyant, un médium, qui avait rêvé quelques jours auparavant de quelque chose qui se passait à New York et avait tenté de prévenir le FBI, qui évidemment n'avait pas tenu compte de ce qu'il disait, mais qui, a posteriori, s'est intéressé beaucoup à cette source d'information.
Ouais. Alors voilà, on va faire une petite pause et on revient tout de suite. De retour à l'émission Nos rêves nous parlent, en présence de Jean Gagliardi. Vous êtes toujours à Radio Mieux-Être. Donc Jean, on parlait tout à l'heure du fait que ce qui était d'abord important de faire quand on a un rêve, c'est de bien le noter, de rester dans l'émotion du rêve en se le racontant au présent. Et puis, une fois le rêve bien noté, qu'est-ce qu'on fait par la suite?
Alors, donc, j'ai aussi mentionné que c'est important de lui donner un titre, d'aller chercher l'intuition immédiate qu'on a par rapport au rêve. J'ai parlé aussi du fait qu'il est important de se situer aussi précisément que possible dans le rêve et de prêter attention à tous les détails, comment on est habillé, comment on se sent. Et puis, tous les détails qui vont nous permettre de situer le rêve, c'est-à-dire où c'est que ça se passe, à quel moment, est-ce que c'est l'été, l'hiver, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit. Tous les éléments qu'on peut aller chercher sont importants, qui vont permettre de vraiment bien situer le rêve. Ensuite, ce qui est intéressant à faire, c'est d'inventorier les symboles. Les symboles, ce sont tous les éléments du rêve, les personnages, les animaux, les objets, tout ce qui fait partie du rêve, tout ce qui compose le rêve.
On les note en vrac. Après l'histoire.
On les note en vrac après l'histoire. On s'en fait une liste, d'une certaine façon. Parce que ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va reprendre un à un ces symboles. Et on va aller chercher les associations qu'on a avec chacun de ces symboles. C'est-à-dire à quoi ça nous fait penser. Et un bon truc pour aller chercher nos associations autour d'un symbole, c'est si on devait expliquer ce qu'est quelque chose à un extraterrestre. Mmh. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Si par exemple dans mon rêve de cette nuit, il y a un téléphone portable qui sonne, quand je décroche, je suis très surpris parce que j'entends une voix complètement distordue. Bon, téléphone portable, c'est un symbole. D'accord, c'est quelque chose que je connais, c'est banal, c'est un élément très banal de mon existence. Mais par le fait que ça apparaît dans mon rêve, je peux vraiment considérer que c'est le symbole d'autre chose. Et alors,
on pourrait dire une petite boîte noire qui parle.
Alors,
aussi simple, aussi bête, aussi simple que ça.
Voilà, c'est par exemple ce que tu dirais. Peut-être, une petite boîte noire.
Pour un extraterrestre qui ne sait pas c'est quoi, c'est une petite boîte noire qui parle.
Voilà, si tu dois expliquer, mais peut-être que ça va un petit peu plus loin, parce que dans ce cas-là, ton extraterrestre ne comprendrait pas que toi aussi, tu parles dans le téléphone portable. Donc, un téléphone portable, tu vas lui dire, par exemple, que c'est un moyen de communiquer avec d'autres personnes, où que tu sois. Que tu n'as pas besoin d'être à la maison ou derrière un téléphone fixe, à fil, mais que le téléphone portable te donne une grande liberté parce que tu peux te promener dans les rues et parler avec des interlocuteurs qui peuvent se trouver n'importe où sur la planète. Et déjà, en écoutant l'association, on peut déduire que ce symbole du téléphone portable dans mon rêve est lié à la communication. Que je communique avec quelque chose. Mais avec qui je communique, c'est un peu le problème. Est-ce que je parle toute seule? Ben, comme je disais, dans mon rêve, je reçois un appel, et quand je décroche, c'est une voix distordue qui me parle. Là, la voix distordue, c'est aussi un symbole, mais c'est pas facile à manier. Qu'est-ce que c'est une voix distordue? Bon, c'est une voix qu'on n'arrive pas à bien saisir, on n'arrive pas à bien comprendre. Mais à nouveau, on peut aller chercher les associations. Les associations, c'est aussi toutes les mémoires qu'on peut avoir à propos de quelque chose. Et il se peut, par exemple, que j'ai eu des problèmes auditifs à une époque de ma vie et que les voix me paraissaient, à ce moment-là, distordues. Ouais, donc, à ce moment-là, les voix distordues, la voix distordue du téléphone va me rappeler ce moment-là.
Toujours, parce qu'on cherche toujours le cœur du rêve, c'est-à-dire la charge émotive. C'est ça qui est le plus essentiel.
Exactement, exactement. Donc finalement, avec mon rêve de téléphone portable et une voix distordue, la vraie question qui se pose, c'est comment tu te sens quand tu entends cette voix distordue?
À quoi ça te fait penser?
À quoi ça te fait penser et comment tu te sens? Et là, admettons que j'ai eu des problèmes auditifs et que j'ai très mal vécu ça, parce que c'était dans mon enfance et puis j'entendais les voix d'une façon complètement justement distordue. Et ça, d'un coup, ça me rappelle une angoisse, ça me rappelle une anxiété. Alors c'est là que c'est important aussi d'avoir à l'esprit le contexte du rêve. Si par exemple le soir même je me suis couché en me demandant ce que j'allais faire de ma vie, parce que à l'évidence le cycle de vie dans lequel je suis est en train de tirer à sa fin, que je songe à quitter mon travail, à faire autre chose, et que je rêve d'un coup de téléphone dans lequel il y a une voix distordue, je peux tout d'un coup faire le lien avec le fait que j'ai peut-être bien des intuitions qui me viennent de l'inconscient à propos de la question que je me pose de ce que je vais faire de ma vie, mais que je suis avec un problème de surdité, que je suis revenu un peu dans la même situation que quand j'avais des problèmes.
Ou
de
simplement surdité. Que je suis un peu bouché.
C'est une façon très directe de le dire, et bien fonctionnelle en effet. c'est vers ça que je tendais, précisément. Ouais. Mais encore une fois, l'inconscient, la source des rêves, ne juge absolument pas. Elle fait simplement, elle fait constater que je pose la question, mais que finalement je suis un peu sourd.
Parce à que ce que je suis prêt à entendre la réponse.
Voilà, et elle attire éventuellement mon attention sur le fait que ces derniers jours, je suis un petit peu nerveux, un petit peu angoissé. Et que c'est la même angoisse que celle que je ressentais quand j'étais jeune et que j'avais ces problèmes d'audition. Et finalement, il fait le lien, le rêve va faire le lien et va commencer à me faire me rendre compte qu'il y a quelque chose qui essaye de communiquer avec moi et que je suis bouché, que je ne veux pas vraiment l'entendre, que je suis sourd à ce que ça me dit et que ça suscite une certaine anxiété qui, par exemple, m'empêche de bien dormir. Donc voilà, par exemple, un rêve. On vient de faire un travail d'un petit rêve et on vient d'en tirer un petit peu la substantifique
moelle. Une leçon de vie.
Oui, on vient d'en tirer une indication importante, parce que la conclusion que peut en tirer le rêveur qui a rêvé de ce téléphone portable, c'est de se dire, il va peut-être falloir que je me nettoie les oreilles, que je prête mieux attention à ce qui cherche à me parler. Et d'ailleurs, si cette personne vient me voir, ça c'est pas évident qu'on pense à faire cette connexion là par soi-même tout seul, mais je lui demanderai à ce moment-là, qu'est-ce qui te paraît absurde, qu'est-ce que tu as comme idée qui te vienne à propos de ton avenir et qui te semble absurde. Pourquoi? Parce que absurde, on peut l'entendre dedans. Il y a absurdus, ça veut dire qui est sourd à. Au fond, en lui demandant à quoi es-tu qu'est-ce qui est absurde pour toi, je lui demande en fait, à quoi tu es sourd, qu'est-ce que tu te refuses d'entendre. Et si la personne prend le temps de réfléchir à ça, il est fort possible que se produise un déclic qui lui fasse dire j'ai l'idée. J'ai l'idée de partir élever des abeilles, créer un rucher. C'est complètement absurde. Peut-être que tu n'écoutes pas ce qu'il y a là.
C'est peut-être pas si absurde que ça.
Ce n'est peut-être pas si absurde
que ça. C'est peut-être pas juste un buzz.
Voilà, exactement.
Ouais. Intéressant. Puis, lorsqu'on rêve, Jean, en fait, les personnages du rêve, si j'ai bien compris, c'est toujours nous.
Alors, c'est une question difficile, dont on parlera plus amplement une autre fois. C'est que quand les personnages nous sont connus, quand c'est des gens qu'on connaît, notre conjoint, nos enfants, notre père, notre mère, une amie, il y a une ambiguïté. On ne peut pas savoir si nous rêvons à propos de cette personne ou si cette personne sert simplement de symbole pour une partie de nous. Alors, on part toujours avec l'hypothèse que c'est une partie de nous, mais on regarde aussi ce que ça peut nous dire sur la dimension objective, parce que les rêves ont aussi des choses à dire sur la dimension objective de la vie, et peut tout à fait nous amener un rêve qui parle d'une situation relationnelle.
On va dire à quoi te fait penser ce personnage-là.
Absolument. Comment tu me décrirais cette personne? Une bonne façon de cerner assez vite le symbole quand c'est une personne, c'est d'aller chercher tout de suite trois qualités et éventuellement trois défauts qui présenteraient bien cette personne. Donc ça nous permet de voir en quoi qu'est-ce qu'on aime chez cette personne, qu'est-ce qu'on n'aime pas, en quoi elle nous dérange et en quoi on l'apprécie, et donc les connexions encore une fois émotionnelles avec cette personne.
Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette personne-là, justement?
Tout à fait. Mais la dimension objective du rêve n'est pas à négliger, c'est-à-dire que le rêve peut aussi avoir un sens tout à fait lié à la réalité de la relation avec cette personne. Alors Carl Jung avait une habitude, quand il rêvait d'une personne qu'il connaissait et avec qui il avait l'occasion de parler, il lui disait presque toujours, je dis bien presque, parce que des fois, il y a des situations un peu scabreuses dans les rêves qu'on préfère pas partager, mais il disait presque toujours son rêve à la personne, en partant du fait que s'il y avait quelque chose là pour cette personne, elle aurait des intuitions, il se passerait quelque chose pour elle qui éventuellement serait déclenché par l'écoute du rêve. Donc c'était une façon de demander son avis à la personne et de lui en faire profiter en même temps.
Intéressant.
De lui dire « j'ai rêvé de toi cette nuit, il se passait ça vois si tu peux en faire quelque chose. »
On sait que Carl Jung a parlé beaucoup aussi de ses propres rêves. Il les a même répertoriés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le livre rouge, qui était son cahier de notes personnelles. Mais ça me rappelle un rêve qu'il avait fait en faisant allusion, qui finalement annonçait la mort de sa mère.
Oui.
Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Parce que ça, je trouve que c'est un beau rêve.
Je peux en parler très très vite. Je crois qu'il nous reste que très peu de temps. Et il a fait un rêve tout à fait étonnant, dans lequel son père, qui était décédé 20 ans auparavant, venait le voir et lui demandait qu'est-ce qu'il y avait de neuf dans les relations maritales, comment les relations hommes-femmes avaient évolué depuis qu'il était parti. Et c'est au réveil que Jung s'est interrogé, s'est dit qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Il a vraiment tourné autour de ce rêve sans le comprendre, jusqu'à ce qu'il réalise, quelques jours après, que sa mère est décédée, il s'est dit « Ah, mon père se préparait à la retrouver et il avait besoin de se mettre au clair, au jour, sur l'évolution des relations matrimoniales parce qu'il s'apprêtait à recommencer sa relation avec elle. Donc c'est la façon dont un rêve préparatoire, prémonitoire peut venir et être en même temps complètement déroutant au prime abord. »
Donc Jean, moi ce que je retiens surtout aujourd'hui de tout ce qu'on a discuté, c'est qu'il y a une sagesse dans le rêve. Et le but de l'exercice, c'est d'être à l'écoute de cette sagesse-là qui nous parle à toutes les nuits.
Il y a une sagesse en chaque être humain, et c'est cette sagesse qu'on peut aller chercher grâce au rêve.
Ouais. Et on a fait l'ABC du rêve.
Et on continuera avec DEF la semaine prochaine.
Oui, puis on peut même se rendre jusqu'au Z.
Tranquillement, pas vite.
Excellent.
Bonne semaine.
Bonne semaine.